Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin Christophe Guillotot, le président du département du Rhône. Christophe Guillotot, bonjour.
Bonjour.
Après des mois passés à réduire les budgets, à traquer les dépenses inutiles, vous allez voter en mars votre premier budget en tant que président du Nouveau Rhône. Est-ce que vous le considérez comme le défi de votre carrière politique ?
Oh non, le défi de ma carrière politique, j'espère que j'en aurai d'autres de plus agréable que construire un budget. Mais par contre, c'est notre premier budget. On est arrivé, le budget qui était dans la maison avait été fait par nos prédécesseurs. Et là, on est en train de construire, de finaliser notre budget. On l'a présenté en débat d'orientation budgétaire, ce qu'on appelle le DOB.
Tout à fait.
Et on le fera voter dans quelques jours. Premier budget de cette mandature, de ce nouveau département, de nouveaux élus.
Durant ce DOB, vous avez promis une grosse économie notamment, elle concerne les quarts du Rhône, 35% de l'offre actuelle sera réduite en septembre 2016. Les habitants devaient être fixés courant février sur le sort des communes qui seront moins, voire plus du tout desservies. Est-ce que le suspense va encore durer ?
Plus du tout, non. On a simplement trois chiffres qu'il faut avoir en tête. La première, c'est que nous, on a promis aux promesses électorales de ne pas augmenter les impôts. La deuxième, c'est que quand on est arrivé, l'enveloppe transport, elle fait 58 millions. C'était exactement la même pour Michel Mercier, mais lui, il avait 1,7 milliard de budget, nous, on n'a que 600 millions. Vous voyez que dans le delta, c'est quand même 12%. Et puis après, c'est de voir qu'il y a des lignes où il n'y a personne. J'ai des lignes où j'ai 1,6 passagers par transport, par car. Alors, j'entends bien que certains sont acharnés à garder le service public. Ça, c'est une vieille philosophie de certains personnages. Mais ils n'aiment pas la payer, cette philosophie. Moi, je ne peux pas garder 58 millions parce que je ne sais pas faire. Et deuxièmement, je ne peux pas garder des lignes qui sont, je dirais, complètement déficitaires où il n'y a personne. Donc, il faut qu'on trouve une
autre solution. Elles sont ciblées, ces lignes ?
Bien sûr, elles sont ciblées, elles sont toutes ciblées. Elles sont ciblées dans une partie dans l'Est lyonnais. Elles sont ciblées surtout dans ce qui est la vallée du Rhône, Condrieux, en Puy, où j'ai même des lignes, alors là, je veux dire, qui sont même orthodoxes, qui vont même, pour certaines, dans la métropole et même dans le département de l'Isère. Donc ces gens n'entendent pas du tout donner le moindre sou au département du Rhône. Donc je crois qu'avec le Citral, on fait une analyse fine, parce que maintenant, dès que quelqu'un monte dans un bus, on le sait, puisqu'il y a les gens badge ou paye, et qu'on a des outils électroniques, informatiques, qui nous permettent d'avoir, je dirais, une vision, je dirais, chiffrée au millimètre, et qu'on va être obligé de réduire les lignes où il n'y a personne dans le bus, c'est tout. Quand je vois que certains m'envoient des pétitions avec 500 signatures, j'aimerais bien que ces 500 signataires prennent le bus. Au moins, je ne me poserai pas la question, elle ne serait pas supprimée.
Avec toutes ces économies et puis avec la perspective d'investissement d'une cinquantaine de millions d'euros en 2016, on pourrait croire que le département respire enfin, mais il reste encore et toujours ces fameuses emprunts toxiques. Est-ce qu'avec l'appui de la métropole, vous pouvez arriver à une solution en 2016 ?
Il faut qu'on arrive à une solution parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur un remboursement à taux d'intérêt de 24%. On avait trois emprunts structurés qui ont été mutualisés avec la métropole, donc avec Gérard Collomb. Et depuis deux mois, on mène un travail, je dirais, de fourmi, je dirais, nos services et ses services avec lui. Et on va sortir avant l'été, je dirais au printemps, de ces emprunts toxiques. Parce que globalement, c'est pas tenable. Quand vous êtes à 24%, le total de ces emprunts, c'est 640 et quelques millions d'euros. Alors qu'il faut qu'on en sorte et qu'on réemprunte pour repartir sur des emprunts. Je dirais, aujourd'hui, les collectivités achètent de l'argent entre 1% et 3%. Et 3%, c'est quand on se fait voler. Ça n'a rien à voir avec 24%. Donc voilà, on négocie. Je remercie Gérard Collomb de son implication dans ces négociations.
Vous vous battez pour les économies, mais aussi pour le dynamisme économique de votre territoire. Le départ programmé de Blédina à Limonest, vous l'avez encore en travers de la gorge, forcément, à tel point que vous souhaitez vous passer aujourd'hui des services de l'Aderly. C'était un coup de pression ou la décision est entérinée et prise ?
Oh, la décision, elle est prise. Si vous voulez, on va finir de régler nos comptes. Je dirais, quand je dis régler nos comptes, je dis en tout bien tout honneur. Si les contrats qui ont été signés seront respectés, moi, quand je reçois les gens de la DRL, ils sont incapables de me donner la liste des entreprises qu'ils ont amenées chez moi. Quand je lis un journal, ils disent 3. Quand je lis un autre journal, ils disent 8. Donc, c'est pas terrible. Donc, je veux qu'ils me donnent la liste des prospects, des lieux d'implantation, qui ne correspond pas du tout à ce que me disent les collectivités, qui me disent « mais non, c'est nous qui les avons implantés ». Donc je crois qu'il faut qu'on ait une vision de l'économie, et pour ça, moi je milite avec Laurent Wauquiez pour qu'on ait une vision régionale, je dirais une agence économique régionale, où les départements soient partenaires, et on aurait de meilleures lisibilités, nous, pour notre trône, parce que j'ai des enjeux d'entreprise à maintenir, à amener. Et puis j'ai un petit dossier aussi qui est quand même important dont personne ne parle, mais c'est l'aéroport de Saint-Exupéry. Je rappelle qu'il n'est pas dans la métropole, qu'il est dans le Rhône avec la privatisation qui va se faire dans quelques jours, pour lequel j'ai une espèce de silence radio là, des partenaires.
Oui.
Mais ça, c'est un dossier important. Et de toute façon, une collectivité ne peut pas vivre sans économie et que... peut pas empêcher au département du Rhône d'avoir une vraie vision économique. Et ma vision économique, elle ne passe pas par les 300 000 euros que je donne à la DERLI.
C'est difficile de défendre le Beaujolais, de défendre Villefranche, quand ces derniers vous reprochent d'être trop lyonnais. Ils font référence au fait que l'hôtel du département reste à Lyon et ne soit pas délocalisé à Villefranche. Qu'est-ce que vous comptez faire pour impliquer davantage ces territoires?
Si les gens de Villefranche me font ce reproche, je veux dire qu'ils ne sont pas informés. Enfin, je trouve ça un peu curieux. Moi, je me bats actuellement pour garder une chambre de commerce à Villefranche. Je me bats même plus que certaines personnes de Villefranche. Sur ce dossier-là, je suis à la loi, j'ai fait mes études à Villefranche. Mes parents habitent Villefranche, donc on ne peut pas me reprocher de ne pas défendre Villefranche. Ça, c'est un mauvais procès. Mais ça, c'est ceux qui reprochent ça, c'est ceux qui font des reproches dans les salons. C'est toujours facile, on ne les voit pas beaucoup sur les dossiers. Changer mon site, de place, ce n'est pas tenable. Hein. Un siège, c'est 85 millions. Quel est le contribuable qui pourrait accepter qu'on puisse, par plaisir du président, aller déplacer le site à Villefranche? Le site, il est à la préfecture, avec les services préfectoraux qui sont au bout du couloir, avec une vision dans la métropole. Et qu'on le veuille ou pas, le département du Rhône ne pourra jamais s'exonérer de la présence de la métropole où il y a toutes les grandes administrations et les grandes radios.
Donc le débat n'a jamais existé.
Et en plus, le personnel est hostile. J'ai quand même 2000 personnes qui ont fait un choix de rester dans le département et dont les premières discussions syndicales ont été « on veut rester là ». Donc les gens de Villefranche, ils sont gentils, mais c'est pas eux qui font les discussions syndicales à la place.
Et puis Christophe Guillotot, sur votre mandat de député, Nicolas Sarkozy a annoncé que c'était un déshonneur de se comporter de manière politicienne en ne votant pas la déchéance de nationalité. Alors vous n'avez participé qu'au vote final sur le projet de
non,
la loi.
Non, je suis désolé, j'ai participé, contrairement à ce qu'a dit Libération, j'ai participé au texte complet, j'étais même là le fameux lundi soir, on m'a expliqué que j'étais pas là. Donc je suis absolument...
Vous n'êtes pas répertorié dans les votes sur le site de l'Assemblée.
Mais attendez, dans le vote, vous avez ce qu'on appelle le refus de vote. Oui. Vous avez, donc c'est une liberté qui est encore pour tous les élus de France. J'étais présent, je fais partie des rares parlementaires qui étaient là. Mm-hmm. Et je suis absolument désolé, même si ça fait de la peine la Libération qui a publié... Vous savez, comme à une époque, on publiait la liste des gens du déshonneur. Ben, j'étais présent et j'ai participé au débat. Oui. Mais sur ce texte-là, de toute façon, c'est un texte qui ne sert à rien, puisque de toute façon, le Sénat va le reconstruire autrement, qu'il faudra qu'il revienne en deuxième lecture et qu'à la fin, il faudra demander éventuellement à Versailles de voter. En plus, ce texte, il existe. Actuellement. Mmh. Ce texte sur la déchéance existe, les déchéances de nationalité. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il en prononce suffisamment souvent, ce qui est une très bonne chose. Donc il n'y avait pas besoin de nous faire un texte comme celui-ci. Et sur le travail parlementaire, ça c'est un long débat, mais pardonnez-moi, n'avait être dans l'hémicycle que les gens de la commission des lois. Moi je suis commission de la défense et pourtant j'y étais. C'est le fonctionnement de l'Assemblée qui est aujourd'hui un mauvais fonctionnement. En plus c'était un lundi soir, on n'a pas à être à l'Assemblée le lundi soir. Ça a toujours été une promesse, de la présidence de l'Assemblée, oui, sur un texte qu'on a reçu le vendredi. Le vendredi, ce qui est quand même un texte fondamental quand même sur lequel on veut toucher la Constitution. Et quand je vois les amendements qui avaient été déposés par certains de mes collègues, on n'était plus du tout dans ce que dire la philosophie du texte. Mais j'y étais.
Sur le vote, vous ne vous sentez pas donc déshonoré de ne pas l'avoir avalisé?
Mais il m'arrive parfois et très souvent de ne pas voter. Ce qu'on appelle le NPPV ne participe pas au vote. J'ai trouvé que ce texte n'était pas, j'avais fondé sur le sujet en termes de raisonnement parlementaire, puisque ce texte existe. Je n'ai pas voté quelque chose qui existe. Donc oui. Pardonnez-moi, on n'est pas dans un texte là. On est dans un tract électoral de M. Hollande. Des mesures sur le terrorisme, il y en a plein à prendre, mais en tout cas pas celle-ci.
Vous êtes vice-président de la commission de défense à l'Assemblée. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, selon vous?
Pour terroriser le terrorisme, il faut déjà remettre en place un service de renseignement qui fonctionne avec des moyens supplémentaires. Il n'y a pas assez de moyens pour le renseignement.
Pourtant, c'est pas ça qui manque, les services de renseignement. On en a beaucoup
assez.
Plus que les autres.
Mais pas assez. Aujourd'hui, quand vous voulez tracer quelqu'un, c'est 10 personnes. C'est 10 personnes parce qu'on le trace matin, midi et soir, et parfois même il faut traduire. C'est 10 personnes. Donc comptez les nombres de personnes qui sont aujourd'hui dédiées à cette tâche, il n'y en a pas assez.
Oui.
Et deuxièmement, il faut se poser la question, nos jeunes gens qui partent, ils doivent partir mais avec un billet d'aller simple, pas de retour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quasiment à 3000. Tous ces gens-là qui partent, c'est des Kouachi, c'est des Koulibaly en puissance, c'est des Mera en puissance. C'est ça la difficulté. Et qu'on sait tous très bien qu'en France, on va avoir à nouveau des attentats, c'est quand et où. Comme on savait après Charlie qu'on allait avoir d'autres attentats. Et on ne s'est pas donné les moyens. On ne s'est pas donné. Et visiblement, la commission d'enquête qui a été mise en route va peut-être nous éclairer. Mm-hmm. Mais il se murmure de plus en plus qu'on a vraiment eu un bug de renseignement sur ce qui s'est passé malheureusement au Bataclan.
Oui, c'est Georges Fenech, votre collègue parlementaire du Rhône, qui la préside, cette commission.
Oui,
vous allez échanger avec lui à ce sujet?
Oh, j'échange souvent avec lui parce que, président, moi, je fais les auditions toutes les semaines des ministres sur ce sujet-là. C'est un sujet sur lequel il n'y a pas lieu de s'exprimer, d'une façon, importante. Je crois qu'il faut laisser la commission faire son travail. Mais je crois qu'il faut que la France comprenne et que nos gouvernements comprennent qu'on est dans un état de guerre. C'est ce que dit du reste le président de la République. Mmh. Et que quand on est en état de guerre, il faut se donner les moyens techniques, les moyens, je dirais, humains et pas des mesurettes sur la déchéance. Parce qu'en fait, la déchéance, je vous signale, ça, c'est pour une quinzaine de personnes. Hein. Donc sur les 15, il y en a à peu près 12 qui sont morts. Donc on est là dans le folklore pour 3 ou 4 personnes. Il n'y a qu'à faire le boulot qu'il faut, soit les embastiller tout de suite, soit faire en sorte qu'ils ne reviennent pas.
Merci Christophe Guillotot.
Merci.
Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lionmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lionmag.com.